On était resté à la culture de Beersheva. Et cette culture de Beersheva, donc c'était une culture du désert, est en relation, enfin fait partie d'une culture un petit peu plus vaste, si j'ose dire, dont on trouve un grand centre à En Gedi. En Gedi, au bord de la mer Morte, où on a trouvé donc un ancien temple, un très grand complexe sacré, si j'ose dire, qui est composé, il est composé d'un parvis, comme ça. Grosso modo, bon, c'est pas aussi rectangulaire, c'est moins régulier que ce que je fais. Voilà, c'est donc la porte, ça, hein. Comme ça. Bon, comme vous voyez déjà à cette époque-là, les portes étaient déjà un complexe en eux-mêmes, parce que la porte est toujours dans une ville ou dans un bâtiment d'importance, comme c'est le cas ici du temple, le point faible. Donc c'est le point qu'il s'agit de fortifier le plus. Et en même temps, c'est un... Bon, il y a des salles, des chambres, etc. Et vous savez que c'était l'endroit où siégeaient les anciens. Déjà à Sodome, vous avez ça. Donc, un bon millénaire après quand même. Enfin, disons que là, on voit déjà ici les plans, si vous voulez, des bâtiments qui seront comme à peu près, si vous voulez, à l'air. Voilà. Alors, ici, vous avez une niche. Voilà. Où se trouvait la statue du dieu. Hein. Donc, si vous voulez, le saint des saints. Hein. Vous aviez ici donc un bâtiment qui servait donc pour les prêtres, pour remiser certainement leur tout ce qui était nécessaire au culte, quoi. Et puis alors, ici, à l'entrée, vous aviez un autel pour les sacrifices. Alors, ce qui est très intéressant, justement, dans ce temple, c'est qu'on a déjà presque toute l'infrastructure des temples qu'on retrouvera, y compris dans la Bible. Du temple de Salomon, du tabernacle, etc. C'est-à-dire le parvis extérieur, le Saint des Saints, bon, qui ici n'est pas séparé en deux, enfin on trouve quand même déjà ça, hein. Et puis alors ici, devant le Saint des Saints, l'autel pour les sacrifices. Hein. Donc si vous voulez, c'est grosso modo le modèle des temples qu'on retrouvera partout, au Moyen-Orient, y compris justement dans la Bible. Alors, ce temple, on peut le dater avec précision, puisque donc on retrouve des poteries de l'époque chalcolithique, il n'y a pas de problème. Hein. On sait que c'est un temple qui est contemporain de la culture de Beersheba. Bon. Maintenant, on trouve des traces de destruction de ce temple à la fin de cette période. Et là, bon, en fait, il est plus trapézoïdal. Voilà, c'est plus comme ça, c'est d'accord. Ah, je fais trop rectangulaire, en fin de compte, il a plutôt cette forme-là, comme ça. Maintenant, dans les grottes qui surplombent le temple qui est en bas du Wadi Arougot, je vous sais, tu vas appeler David, du Wadi Arougot, à En Gedi. Les autres qui sont allés avec moi à En Gedi ne savent pas où c'est, parce qu'en général, on monte simplement au Nahal David. Donc, il est en bas. Mais dans les grottes qui surplombent le Nahal Arougot, on a trouvé un trésor. Un trésor composé d'objets de cuivre. Et ce trésor est composé d'une part d'armes, notamment des casse-têtes, c'est-à-dire des espèces de masses d'armes avec un manche en bronze, enfin en cuivre, et puis une sphère en quelque sorte, ou une espèce de structure comme ça, hein. On trouve aussi alors des espèces de sceptres représentant notamment, justement, ce qui est très intéressant, des ibex nubiens. L'ibex nubien, que la Bible appelle Gaël, est un animal avec des grandes cornes recourbées comme ça, qui ressemble un petit peu aux bouquetins européens, mais qui ne sont pas des bouquetins, en fin de compte, c'est une espèce africaine qui est adaptée au désert. Et aujourd'hui, justement, aux environs d'Engedi, encore aujourd'hui, on trouve justement un grand centre d'habitation de ces animaux. Donc ici, 3000 ans avant Jésus-Christ, plus encore, entre 3 et 4000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà dans cette région donc, de ces animaux-là. Hein. Et ils sont superbement représentés sur justement ces sceptres qu'on trouve à Engedi. Maintenant, il est clair, il semble du moins, que ce trésor a été caché là, un petit peu comme le sont les manuscrits d'Abermorte beaucoup plus tard, au moment où le temple a été détruit. Il semble que ces objets étaient ce qu'on appelle des offrandes votives, c'est-à-dire des offrandes qui étaient faites au temple, pour toutes sortes de raisons, comme on offrait à Jérusalem, quand les pèlerins venaient à Jérusalem, ils venaient en déposant le demi-shekel que chaque Israélite devait payer chaque année, ou comme aujourd'hui encore, à Lourdes, ou même dans certaines églises bretonnes, vous avez des bateaux qui sont représentés dans la nef, etc., qui sont des offrandes votives que des marins ont offertes parce que, pris dans une tempête, ils ont prié la Vierge ou bien tel ou tel saint local s'il est délivré, de leur offrir, etc. Ce qu'on appelle une offrande votive. Une offrande que l'on fait dans un sanctuaire pour remercier la divinité d'avoir exaucé une prière, d'avoir donné une bénédiction, etc. Donc, vraisemblablement, tous ces objets étaient déposés ici, dans cette pièce. Et lorsque le temple a été pris à la fin de la période, lorsque les ennemis sont arrivés, ce trésor a été caché donc dans des grottes, où les archéologues les ont retrouvés, à peu près d'ailleurs à la même époque que celle des manuscrits de la mer morte, c'est-à-dire un petit peu avant, dans les années 40, disons. Hein, dans les années 40. Alors, ce qui était aussi très intéressant, c'est de noter qu'on trouvait aussi des objets d'ivoire tels que ceux qu'on trouve à Beersheba, la culture de Beersheba, qui était une culture qui était marquée par la présence d'objets d'ivoire, on a vu ça. On retrouve ça aussi donc ici dans le temple d'Engedi, ce qui laisse à penser que le temple d'Engedi devait vraisemblablement être le centre spirituel de cette culture, le centre spirituel de ces gens. On trouve aussi donc des objets, des poteries qui viennent de l'autre côté du Jourdain, des poteries de semblables à celles qu'on trouve à Tel Hassoul ou des choses comme ça. Ce qui laisse à penser que ce temple devait être connu par une vaste population du Moyen-Orient. On trouve aussi des poteries égyptiennes, ce qui permet peut-être de penser, alors c'est une hypothèse aussi qui a été faite, que les populations, notamment de la région du nord du Negev, ça veut dire de la région de Beersheba, pouvaient éventuellement travailler à certaines périodes de l'année en Égypte, et puis revenir passer une partie de l'année dans l'endroit où ils étaient. Donc c'était peut-être des travailleurs saisonniers ou des choses comme ça. Il y a des traces d'influence mésopotamienne, donc on se pose la question de savoir si finalement c'est les gens de cette culture sont venus d'Égypte ou sont venus de Mésopotamie. Il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent en ce qui concerne l'origine justement de ces populations chalcolitiques. Il y a ceux qui pensent justement qu'ils venaient d'Égypte, ce qui serait aussi appuyé par le fait qu'il y a des objets d'ivoire. Alors il y a deux hypothèses sur l'origine de ces objets d'ivoire. Soit qu'il y avait dans le Negev à cette époque-là, ou dans certaines oasis du Negev, des animaux qui avaient d'ivoire, c'est-à-dire des rhinocéros ou des éléphants ou des hippopotames, des animaux comme ça. Ou alors que c'est venu d'Égypte. Quand ces gens-là passaient un temps en Égypte, ils chassaient là-bas des éléphants, des hippopotames, etc. Et ensuite, ils utilisaient l'ivoire pour fabriquer les objets qu'ils amenaient d'ailleurs aussi dans le temple ici d'Engedi. Alors ça, c'est une hypothèse. Il y a l'autre hypothèse sur laquelle ce sont des populations qui sont venues du nord, c'est-à-dire essentiellement de Mésopotamie, parce qu'on trouve justement des points communs avec le temple. Le temple ici est un modèle tant plutôt de type mésopotamien que de type égyptien, quoique temple égyptien aussi, il y a des points communs avec certains temples égyptiens qu'on pouvait trouver déjà à cette période-là aussi, notamment en Haute-Égypte. Mais bon, la similitude avec les temples de Mésopotamie a amené un certain nombre de savants à émettre l'hypothèse que c'était plutôt des populations qui venaient de Mésopotamie. Peut-être que la vérité est entre les deux, et que finalement, si le temple était vraiment un pôle d'attraction pour des gens qui habitaient sur une étendue importante, il est possible qu'il y avait des gens qui étaient en contact avec l'Égypte, ou des gens qui étaient en contact avec la Mésopotamie, qui se retrouvaient finalement dans ce temple. Bon. Alors le temple était détruit ici, avec la civilisation tout entière, à la fin de la période chalcolithique. Et donc là, on a arrivé de nouvelles populations. De nouvelles populations, finalement, c'est le même problème. D'où viennent-elles, ces populations-là? Bon, c'est des populations qui vont former une nouvelle période, qu'on appelle donc la période du bronze moyen 1. Ça, on va y venir dans un instant. Mais c'est le même problème qui se pose. Égypte ou Mésopotamie? Peut-être que, justement, les deux hypothèses sont vraies. Dans la mesure où la terre d'Israël est un point de convergence, un point de contact entre justement ces deux grands pôles de la civilisation ancienne, la Mésopotamie et l'Égypte, il n'est pas invraisemblable de penser que finalement ces populations se retrouvent là, hein, et que la terre d'Israël est un point de contact entre ces civilisations. Bon. Maintenant, il y a, pour parler de l'époque chalcolithique, il y a deux autres centres de la culture de cette époque. C'est la région de Khadera. La région de Khadera, c'est une région qui se trouve dans la plaine du Charon, si vous voulez, au sud du Mont Carmel. À l'endroit où le Carmel, si vous voulez, les derniers contreforts du Carmel viennent mourir dans la plaine du Charon, donc au sud de la chaîne du Carmel. Et là, donc, vous avez d'une part la région côtière qui se poursuit à l'ouest de la chaîne, et puis un passage qui s'insère entre les monts du Carmel et les monts de Samarie, qui part de Khadera. Khadera est le carrefour de ces deux embranchements de la route de la mer. Hein. L'embranchement qui part directement vers le nord, en longeant la côte en direction de la Phénicie et de l'Anatolie, c'est-à-dire de la Turquie, et puis l'autre embranchement qui, lui, bifurque vers l'est, en direction de la plaine d'Israël, et de là, donc, en direction du lac de Tibériade, du Golan et de la Syrie, et enfin de la Mésopotamie. Quoi. Donc là, on trouve une culture qu'on appelle la culture de Khadera. Culture de Khadera qui se trouve essentiellement une culture funéraire, dans ce sens qu'on a trouvé des sépultures de cette période, de la période chalcolithique. Et déjà, donc, on a un type de sépulture qu'on trouvera souvent dans le Moyen-Orient jusqu'à disons, la fin de l'époque du Deuxième Temple, et même après, si vous voulez, jusque pratiquement chez les Juifs au Moyen-Âge, si vous voulez. Ça veut dire une sépulture en deux temps. Bon, les sépultures, à partir de cette période-là, se font essentiellement dans des grottes. Bon, confère l'histoire d'Abraham qui achète la grotte de Macpéla pour y enterrer Sarah, sa femme. Bon, grottes qui peuvent servir dans un premier temps de tombeau et dans un deuxième temps d'habitation pour les vivants quand elles sont désaffectées. Hein. Ou l'inverse d'ailleurs. Des grottes qui commencent par servir de lieu d'habitation, puis ensuite les populations construisent des villages, et puis utilisent les anciennes grottes dans lesquelles ils habitaient pour y enterrer leurs morts. Bon. On peut également aussi faire des grottes artificielles pour y enterrer les morts. C'est beaucoup plus coûteux, bien entendu. Et alors, justement, le gros problème, si vous voulez, c'est que, finalement, ces endroits de sépulture sont peu nombreux et très coûteux. Si on veut creuser une grotte, une grotte artificielle pour y enterrer les morts, bon, ça représente un travail considérable. On n'a pas de dynamite à cette époque-là, même si on a l'équivalent. Ça aussi, éventuellement, c'est des choses qu'on ignore. On s'imagine, vous savez, on a toujours l'idée de notre cher ami, là, comment ça s'appelle, là, notre ancien client, là, la célébrité locale. Comment ? Copains, voilà, exactement. Que les hommes de l'Antiquité, des espèces d'hommes singes, là, qui marchait presque encore à quatre pattes, avec des poils plein la figure, etc., plein le corps. Bon, en fait, quand on remonte à cette période-là, on se rend compte. Pourquoi tu ris?
Non, si je fais ça, je ne vais pas couler un peu.
Mais ces gens-là avaient finalement des technologies beaucoup plus sophistiquées qu'on ne le pense. Bon, enfin, passons. Et alors, mais enfin, bon, quand même, même en tenant compte qu'ils étaient beaucoup plus évolués qu'on veut bien le dire, il est certain que ce n'était pas le tout venant qui pouvait se payer un tombeau dans une grotte artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on réemployait évidemment les tombeaux, les grottes naturelles ou artificielles. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Bon, quelqu'un mourait, on le mettait donc dans une chambre sépulcrale qui se trouvait donc au fond de la grotte. Et puis, au bout d'un an à peu près, ou un peu plus, quand la chair était décomposée, on rassemblait les os et on les mettait dans des espèces de petits coffres de terre cuite, hein, qu'on appelait des ossuaires, ou des coffres qui pouvaient être en pierre aussi. On pouvait directement creuser dans la pierre. Et ensuite, ces ossuaires, comme ça, on les appelle en archéologie, étaient ensuite rangés, hein, rangés au fond de la grotte, et la grotte était prête pour des nouvelles sépultures. On trouve une expression dans la Bible, d'ailleurs, qui évoque ce type de sépulture, c'est ce qu'on appelle être réuni à ses pères. Hein. Un tel mourut et il fut rassemblé à ses pères. On était enterré dans le tombeau de ses pères. Le tombeau, c'était une famille qui avait un tombeau familial. Hein, et des générations et des générations étaient enterrées dans le même tombeau au travers justement de ce procédé. Par exemple, beaucoup plus tard, à l'époque de la monarchie israélite, monarchie judéenne plus exactement, on trouvera dans le... ceux qui connaissent dans la vallée de la Géhenne, au pied de l'église Saint-André, l'église écossaise de Saint-André, qui était avec nous quand on a logé à l'église de Saint-André. Quelqu'un logé avec nous? Non, c'était Andèche. C'était Andèche, il n'y a personne ici. Enfin, vous voyez l'église Saint-André, ceux qui connaissent un peu Jérusalem, à côté de la station de chemin de fer, en bas là, de la vallée de la Géhenne. L'église Saint-André est bâtie sur un endroit où il y avait des grottes naturelles et artificielles qui servaient de tombeaux. Et c'est là qu'on a retrouvé la fameuse tombe de la famille de Paltiaou, qui était une famille de prêtres qui est connue déjà depuis le livre de l'Exode, et qui a été utilisée donc, pendant des générations et des générations, avant la destruction du temple, du premier temple, et après le retour de l'exil. Hein, pratiquement jusqu'à la destruction du deuxième temple, jusqu'à 70 après Jésus-Christ. C'est une tombe qui a été utilisée de cette manière-là. Les premières traces de cette sépulture, de ce type de sépulture, se trouvent à Hadera, justement. Et à Hadera, le professeur Soukenik a découvert, dans les années 30, tout un ensemble d'ossuaires de terre cuite. Ces ossuaires de terre cuite ont ceci de particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont la forme de maison. Ce sont des maisons miniatures, en quelque sorte. Hein. L'idée, évidemment, sous-jacente à ce type de seconde sépulture, c'était qu'en quelque sorte, le mort, dans l'au-delà, retrouvait sa maison. Alors, on reconstituait sa maison pour que dans l'au-delà, il ne soit pas trop dépaysé. Il se sente un peu chez lui. Seulement pour les archéologues, ce qui est très intéressant avec ce type de découverte, c'est que ça nous donne une idée justement de ce à quoi ressemblaient les maisons d'époque. Et ces maisons, par exemple, j'ai ici, je vais vous faire du dessin, mais voilà en gros, si vous voulez, à quoi ça ressemblait. Vous voyez ? Est-ce que tout le monde voit ? Donc, si vous voulez, une maison, toute une pièce qui était en torchis finalement, vraisemblablement, était en torchis. Une seule grande pièce, hein, et une entrée sur le pignon principal, une seule entrée. Bon, cette maison était utilisée vraisemblablement comme abri. On pense que l'essentiel de la vie de la famille se faisait dehors, y compris d'ailleurs pour la nuit. Mais en cas de, pendant les intempéries, la famille se réfugiait dans la maison. Et c'est dans la maison aussi qu'on stockait, évidemment, les choses précieuses que la famille pouvait posséder. Maintenant, il y a un autre centre de civilisation chalcolithique. Ce sont les grottes du désert de Juda. Lorsque le professeur Yadin, en 1952, après la première découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1948, a décidé d'organiser une grande expédition dans toutes les grottes des environs de la Mer Morte, dans l'espoir d'y retrouver de nouveaux manuscrits. Donc une grande expédition a été organisée en 1952 avec des moyens considérables, notamment des hélicoptères de l'armée, qui ont permis d'accéder à des grottes qui étaient difficilement accessibles autrement. Et alors on a retrouvé évidemment, effectivement, un certain nombre de manuscrits très importants, mais on a aussi retrouvé, et ce n'était pas le but de l'expédition, mais enfin c'était un but annexe, ça a été quand même une découverte importante, on a retrouvé des traces d'occupation de ces grottes qui ont été utilisées par les zélotes après les deux révoltes, les deux révoltes juives, celle de 70 après Jésus-Christ et celle de 135 après Jésus-Christ, c'est-à-dire la révolte de Bar Korba. Et on a découvert justement que ces grottes, un certain nombre d'entre elles du moins, avaient déjà été occupées à l'époque chalcolithique. Et là, donc, on a retrouvé un certain nombre d'instruments de cuivre, un peu semblables justement à ceux qu'on a trouvés dans les grottes d'Engidi, dont nous parlions tout à l'heure, ce qui prouve qu'il y avait des relations justement entre les civilisations du nord du Negev et les civilisations du désert de Juda. Bon, on sait que les habitations dans les grottes ont continué pendant longtemps, jusqu'à nos jours finalement, jusqu'à les années 60. Il y avait encore des bédouins dans les environs d'Hébron, qui vivaient dans des grottes, exactement comme à l'époque chalcolithique, si vous voulez. Alors là, c'est pareil, quand on nous parle de l'homme préhistorique, ben, l'homme préhistorique, on le trouve encore aujourd'hui. Bon, je crois que c'est fini maintenant, quand même. Mais enfin, il y a encore 40 ans, c'est pas quand même très vieux, il y avait encore des bédouins qui vivaient de cette manière-là. Bon. Alors, manifestement, ces grottes aussi étaient des grottes d'un accès particulièrement difficile. Et alors, justement, la question est de savoir pourquoi des populations ont-elles éprouvé le besoin d'aller se réfugier dans des grottes d'un accès aussi difficile que cela. Bon, on peut penser que ces gens-là avaient maille à partir avec des ennemis et qu'ils sont allés se réfugier dans ces endroits-là parce que, justement, ils cherchaient à se réfugier, se mettre à l'abri de ces ennemis. De quel genre d'ennemis s'agissait-il ? C'est tout le problème. Encore une fois, à cette période-là, nous n'avons aucune source écrite. Par conséquent, nous ne pouvons pas savoir quelles ont été les vicissitudes de cette période-là. Mais enfin, un fait est que ces grottes ont servi de refuge aux proscrits, aux bannis, aux persécutés de tous les lieux, de tous les temps, enfin de tous les temps en tout cas historiques de l'histoire du pays d'Israël. Et ce qui s'est passé donc au moment de des deux révoltes juives et donc de la répression romaine qui en a suivi a dû se produire aussi à l'époque chalcolithique, évidemment, dans des conditions historiques qui nous dépassent. Ce qui, en tout cas, semble probable, c'est que ces populations ont eu maille à partir avec celles qui sont venues créer une civilisation nouvelle, celle qu'on appellera justement l'époque du bronze ancien. Le bronze ancien, donc, qui correspond grosso modo avec l'époque des premières dynasties égyptiennes en particulier, c'est-à-dire à proprement parler ce qu'on peut appeler l'époque historique. En fin de compte, avec l'époque chalcolithique, nous sommes encore dans l'époque préhistorique, ça veut dire la période où l'écriture n'existe pas. Avec l'époque du bronze ancien 1, nous entrons de plein pied dans la période historique. Et là, donc, effectivement, à la fin de l'époque chalcolithique, c'est-à-dire aux environs de 3100 avant Jésus-Christ environ, toute cette civilisation s'effondre. C'est le cas d'Engedi, c'est l'époque de la destruction du temple d'Engedi, c'est l'époque de l'abandon ou de la destruction. Des habitations semi-troglodytes de Beersheba et du nord du Negev. C'est l'abandon des sites qui se trouvaient à la fois donc en Transjordanie, mais surtout au sud du lac de Kinneret, Talat el Hasoul, Kinneret lui-même, etc. Bon. Donc ici, il y a effectivement un grand bouleversement, un grand mouvement de population qui intéresse le Moyen-Orient tout entier, puisque on va voir apparaître justement les premiers empires, si l'on peut dire. D'abord, création de l'Empire égyptien. L'Empire égyptien, donc, si l'on prend la chronologie longue qui est celle que nous adoptons, c'est-à-dire 3100 avant Jésus-Christ, c'est l'apparition de la première dynastie d'Égypte, le roi Nakhmer, qui unifie sous son sceptre la Haute et la Basse Égypte, et qui coiffe la fameuse couronne, qui est une composition justement des couronnes de Haute et Basse Égypte, et qui va créer l'ancien empire égyptien. En Mésopotamie, c'est l'apparition, non pas d'un empire sumérien, car les Sumériens n'ont pas à proprement parler formé un empire centralisé à l'image de l'empire égyptien. Mais en Mésopotamie, apparaissent des cités-États. Ça veut dire des villes. C'est l'époque de l'urbanisation véritable. Bon, l'urbanisation, elle existe déjà avant même, nous l'avons vu, l'époque chalcolithique, puisque déjà à l'époque néolithique à Jéricho, on trouve la plus ancienne ville du monde. Néanmoins, c'est une exception. C'est une exception. Nous avons vu que même la Jéricho 9, c'est-à-dire la première Jéricho, ne peut pas être qualifiée à proprement parler de ville. C'est un village, en fin de compte, un gros village. La Jéricho 8 peut être appelée ville parce que, justement, elle est fortifiée. Et finalement, c'est ce qui différencie en archéologie une ville d'un village, car certaines... la population d'un certain nombre de grandes villes, entre guillemets, de l'Antiquité, ne sont pas tellement plus importantes que celles d'un gros village. Mais ce qui différencie, archéologiquement parlant, une ville d'un village, c'est que les villes sont fortifiées. Donc on peut véritablement parler d'une ville de Jéricho néolithique. Bon, mais c'est l'exception. L'exception. Pour voir une urbanisation importante se créer au Moyen-Orient, il faut attendre l'époque du Bronze Ancien, c'est-à-dire justement l'apparition de la période historique. Et en Mésopotamie, contrairement à ce qui se passe en Égypte, vont se créer des villes, d'abord en basse Mésopotamie, ça veut dire dans la région du delta du Tigre et de l'Euphrate, qui n'avait d'ailleurs pas exactement la même configuration que de nos jours. Et là, donc, vont se créer un certain nombre de villes qui vont être promises à un très, très brillant avenir, bon, dont certaines ont été reconstruites sur l'emplacement de celles qui avaient existé avant le déluge, disent les traditions locales. Donc, on peut penser, effectivement, que... un certain nombre de ces villes ont été contemporaines de Jéricho néolithique, mais enfin bon, ou même chalcolithique, disons, à l'époque où ont existé, mais on n'a pas trouvé jusque maintenant de traces archéologiques de ces villes en Mésopotamie. Par contre, justement, après cette période, donc, il y a là des traces d'une urbanisation très importante. Et ces villes vont avoir une tradition de villes saintes, qu'elles conserveront, grosso modo, jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand. Parmi ces villes, évidemment, la plus importante sera Babel, Ur, Erer, qui s'appelle Uruk en sumérien, Kalné, Rehov, Kalach, etc. Bon. Un peu plus tard, vont se créer, beaucoup plus au nord, un certain nombre d'autres villes, mais peu de temps après, finalement, qui seront Le deuxième pôle, si vous voulez, de la population mésopotamienne jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand, quoi, hein, jusqu'à la conquête hellénistique, qui sera justement le pays de Ninive, autour d'Achour, Ninive, le pays d'Achour, justement, hein, Ninive, etc. Bien. Maintenant, ce qui se passe en Eretz Israël est tout à fait différent. Eretz Israël n'est pas, contrairement à ces deux grands centres, une région de grande civilisation. On voit dans ces deux centres, par contre, naître, par exemple, l'écriture. Alors, deux types d'écriture fondamentalement différents. En Égypte, c'est l'écriture hiéroglyphique. L'écriture hiéroglyphique qui est composée de pictogrammes. Ça veut dire on représente les objets que l'on veut ainsi signifier. Par exemple, le soleil. Voilà, ça c'est le soleil. Bon. Le soleil qui se dit Ré ou Ra. On ne sait pas trop comment c'était vocalisé. Hein. Bon. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis ? La mer. L'eau ? Mes en égyptien. D'où le mot Moshe, Moïse. Moïse vient de là. Ça veut dire eau en égyptien, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il a été sauvé des eaux. Bon. Alors, ça, c'est des pictogrammes. Alors, pour représenter chaque objet, finalement, on a un pictogramme différent, ce qui fait qu'on a des milliers de signes. Bon. Maintenant, si on veut constituer des phrases, hein, des verbes, hein, là on a des noms, des substantifs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, si vous voulez, on donne, si vous voulez, au mot un sens figuré. Bon, pour les Égyptiens, la cosmogonie égyptienne, ça veut dire la manière dont se sont créés le monde, hein, c'est l'idée, qu'on retrouve un peu dans la Bible d'ailleurs, qu'au départ, le monde était entièrement recouvert par l'eau. Hein. Le chaos primitif, le tohu-bohu biblique, pour les Égyptiens, c'était de l'eau. Et le soleil, qui est le dieu, le plus grand des dieux, le premier des dieux, est sorti de l'eau. Pourquoi ? Parce que, justement, on a l'impression que tous les matins, le soleil sort de l'eau. Hein ? Il sort de la mer et se couche dans la mer. Donc, si vous voulez, l'idée qu'au commencement... Alors, c'est là, justement, voyez-vous, que nous ne sommes pas dans un système monothéiste. Pourquoi ? Parce que, justement, les anciens, quels qu'ils soient, ont toujours l'idée d'une matière primitive. Et le Dieu n'est pas éternel. Le Dieu a eu un commencement. Il est sorti de la matière originelle, souvent l'eau. Et quand on nous parle, on nous rabâche les oreilles, et ça commence à me bassiner, avec cette histoire d'Ikhnaton. Vous savez, la révolution d'Ikhnaton, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, Amenhotep IV, qui a aboli tous les dieux de l'Égypte, pour n'adorer plus qu'un seul dieu, le soleil, Aton. Et alors, Moïse aurait été influencé par Ikhnaton, etc. Je regrette. Le système d'Ikhnaton n'était pas un monothéisme. C'était une monolatrie, ça veut dire l'adoration d'un seul dieu. Le monothéisme, c'est beaucoup plus que ça. Le monothéisme, c'est Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est une phrase absolument révolutionnaire. On y est tellement habitué qu'on n'y fait même plus attention. Mais pour les anciens, quand elle a été prononcée, cette phrase, c'était une révolution dont vous ne pouvez pas vous faire une idée. Ça veut pas dire. Ça veut dire qu'au début, il n'y avait rien. Et ça, les anciens ne pouvaient pas l'imaginer. Il y a toujours eu quelque chose. Non, il n'y avait pas rien, il y avait Dieu. Tandis que les anciens disent, au début était la matière. Et de la matière sont sortis les dieux, ou le Dieu, dira Akhenaton. Et la Bible nous dit l'inverse, elle dit c'est pas vrai. Au début, il n'y avait que Dieu. Bereshit Elohim. Au début, Dieu. Au commencement, Dieu. Voilà. Ça, c'est le vrai monothéisme. Tout est dit. Il n'y a rien à ajouter. Au commencement, Dieu. Ça, c'est la révolution monothéiste. Ça, c'est la révolution mosaïque. Et les anciens n'avaient pas ça. Pour les anciens, encore une fois, la matière est première. Et vous retrouvez ça chez les Grecs. Vous retrouvez ça chez Platon. Vous retrouvez ça chez Aristote. Vous retrouvez ça chez, ensuite, Démocrite. Chez Lucrèce, ensuite chez les Latins. Qu'est-ce qu'est l'acte de la création ? L'acte de la création, c'est l'organisation de cette matière brute. Les dieux, quand ils créent le monde, ne font que l'organiser. Alors justement, la Bible nous dit aussi, oui, c'est vrai, il y a eu une organisation. Mais, si vous voulez, il n'y a pas de matière préexistante. Et la Bible a deux mots pour employer ça. Bereshit bara, bara, créa. Le mot bara signifie en hébreu créer à partir de rien. Il n'y avait rien et soudain il y a eu quelque chose. Et puis après constamment, dans toute la suite du récit de la Genèse, il y a un autre mot qui apparaît, le mot assa. Assa, c'est effectivement fabriqué à partir de quelque chose qui préexiste, organisé. Dieu a créé la matière du néant. Et à partir de cette matière, eh bien, il a construit le ciel, il a construit la terre, il a construit les étoiles, il a construit la mer, il a construit, etc. Le mot bara apparaît dans une autre réalité quand il est dit l'homme. Pour l'homme, les deux mots sont utilisés. Naase et Adam. Faisons l'homme. Et l'homme est modelé de la poussière de la terre. Et ensuite, il nous est dit Vaivra Adonai et Adam. Srar Nekeva Baram. Dieu créa l'homme à son image. Mâle et femelle, il le créa. Et là, c'est le mot bara. C'est le même mot que celui de la création primitive quand Dieu a créé la matière. Ça veut dire que l'homme est à la fois tiré de la poussière de la terre, il est fait, fabriqué à partir d'une matière préexistante. Ça veut dire qu'il plonge ses racines dans l'animalité et en même temps, il a une création entièrement nouvelle, entièrement originale. Quelque chose qui a été créé ex nihilo, à partir de rien. Le souffle divin qui a été insufflé dans ses narines. C'est pourquoi l'homme est une créature exceptionnelle dans l'univers. Et ça, les écologistes, quand ils nient cette spécificité de l'homme, font une faute énorme. Donc ça, c'est le vrai monothéisme. C'est le vrai monothéisme. Création à partir de rien. Maintenant, revenons à nos Égyptiens. D'ailleurs, je termine là-dessus, sur cette pensée. Vous savez que même les savants modernes, c'était jusqu'à 1965, le débat entre les savants, les marxistes par exemple. Marx part de la pensée des Grecs. La matière a toujours existé. Et alors il y a dans le marxisme une espèce de divinisation de la matière. Une divinisation de la matière, ça veut dire... il y a dans la matière des forces, comme la matière est éternelle d'abord. Il y a des forces qui la poussent à s'organiser. Il y a une espèce de dynamique interne à la matière qui la pousse à s'organiser d'une manière toujours plus complexe. Et Marx reprend le schéma darwiniste, bien entendu, l'amibe, les éponges, les protozoaires d'abord, et puis les éponges, les méduses, les poissons, etc., les vertébrés, connaissez le schéma darwinien, jusqu'à l'homme. Et puis même l'homme, ensuite ça continue. L'homme, c'est la matière qui prend conscience d'elle-même et qui, par conséquent, va prendre en main sa propre évolution, sa propre organisation. Et par conséquent, il y a une espèce de courant ascendant dans la matière qui va vers un but, une espèce de messianisme marxiste. Marx n'était pas juif pour rien. Et alors, justement, qui va aller jusqu'à l'homme idéal. Un jour, l'homme va réussir à s'organiser de telle manière qu'il va créer un monde idéal, va créer un paradis terrestre. Et alors, ce sera le sommet de l'évolution de la matière. Alors ça, c'est un système dont nous sommes encore infectés, bien entendu, aujourd'hui. Malheureusement, et c'est peut-être une des raisons de la chute du marxisme aussi, c'est qu'en 1965, un télescope a été emmené un engin sophistiqué pour mesurer les rayonnements a été envoyé dans l'espace, dans un satellite artificiel, et il a ramené justement les traces du Big Bang. Big Bang, c'est-à-dire ce rayonnement absolument incroyable, pouvant avoir aucune idée de cet énorme, énorme éclair qui a été au commencement et qui a été tellement énorme, tellement puissant que, si on en croit les savants, des milliards d'années après, parce qu'on ne sait pas trop bien, les savants ne sont pas d'accord sur le nombre de milliards d'années qui sont l'âge de l'univers, des milliards d'années après, on peut encore voir. Pas nous, pas avec nos yeux, même pas avec nos télescopes, mais avec des systèmes de mesure extrêmement sophistiqués, les traces de ce Big Bang. Et quand on a découvert les traces de ce Big Bang, ça veut dire quelque chose. Ça voulait dire que l'univers a eu un commencement. Et que finalement, le conflit qui existait depuis les Grecs, et même avant, disons, entre les païens, je pourrais dire, et les judéo-chrétiens, parce que finalement c'était le débat, entre les créationnistes et les matérialistes est étranché. Maintenant, on sait que l'univers a eu un commencement, que la matière n'est pas éternelle. Et la découverte du Big Bang a donné raison à la Bible au commencement Dieu. Parce que les savants sont arrivés à la certitude qu'il y a eu un moment zéro. Avant ce moment zéro, il n'y avait rien. Et après le moment zéro, il y a eu cet énorme, énorme éclair, qu'il y ait de la lumière, il y a eu de la lumière. Un éclair dont nous ne pouvons pas avoir la moindre idée, qui a été le commencement de tout. La matière est née de cet éclair. Après ça, donc, la lumière s'est transformée. Il y a tout un ensemble de lois physiques qui ont été étudiées d'une manière très précise par les astrophysiciens. On sait maintenant ce qu'ont été les trois premières minutes de l'univers. Et ça correspond exactement à ce que nous dit la Bible, entre parenthèses. Mais pendant des milliers d'années, on a discuté de cela. Et pour les peuples païens, c'était justement la grande différence entre les païens et les judéo-chrétiens. C'est que les païens, de tous les temps, y compris les néo-païens modernes, et encore aujourd'hui au niveau des écologistes en particulier, des gens qui voudraient revenir au système de Démocrite et de Lucrèce, c'est-à-dire justement d'une idée de l'éternité de la matière, malgré les découvertes modernes. Mais là maintenant, le débat est tranché. Il n'y a plus à en discuter, c'est clair. C'est clair. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, puisqu'on reste sur ce chapitre, c'est une autre affirmation biblique. Dieu est saint. Ça veut dire quoi, Dieu est saint? Bon, ça veut dire que Dieu est moralement parfait, c'est comme ça qu'on le comprend. Non, pas pour la Bible, dans un premier temps. C'est vrai que Dieu est moralement parfait, ça, c'est pas en cause. Mais quand la Bible dit que Dieu est saint, c'est pas tellement ça qu'elle veut dire. Ça veut dire que Dieu est séparé de sa création, différent de sa création, foncièrement différent. Il n'y a strictement, comment dirais-je, rien de la nature divine qui existe dans la création. La création de Dieu est entièrement, totalement extérieure à Dieu. Et ça, ça exclut toute idée de panthéisme. C'est ce que les théologiens appellent la transcendance de Dieu. Dieu est foncièrement séparé de sa création. Kadosh en hébreu, saint, ça signifie séparé. Et justement, les écologistes, encore une fois, les gens du Nouvel Âge, les bouddhistes, les religions orientales, qui sont basées justement sur l'idée que tout est Dieu, la nature est Dieu. Et si la nature est Dieu, il faut que la nature soit éternelle. Et ces philosophies, malgré les découvertes des savants, continuent à penser qu'il y a une éternité de la matière. Mais scientifiquement, c'est impossible. On sait aujourd'hui que c'est impossible. Alors ça, justement, c'est la grande différence entre, encore une fois, la Bible et les mythologies, y compris les mythologies modernes, car je place le marxisme au rang des mythologies. Je place l'écologie doctrinaire, en quelque sorte, au rang des mythologies. Je place l'athéisme au rang des mythologies. Le darwinisme, etc. Ce sont des mythologies. Bien. Alors donc, revenons à nos Égyptiens maintenant. Donc, le soleil naît de la mer. Tout est né de la mer. C'est la mer qui donne naissance à tout. Donc naître. Comment est-ce qu'on va dire naître en égyptien ? Une chose. N'importe qui naît de cette manière-là. C'est tellement vrai que le fœtus baigne dans l'eau. Ça, les Égyptiens le savaient déjà. Ce qui montre bien justement qu'on est des eaux. Alors, fils, ça vous rassurera, vous dites ça, mess. Vous êtes fils de. On va mettre féminin pour une fille, mais c'est la même racine. Alors, vous connaissez ce mot-là, tout le monde, bien sûr. Ça veut dire quoi, à votre avis ? Fils du soleil. Voilà. Alors, vous voyez, on combine comme ça deux idéogrammes. Et comment est-ce qu'on va écrire ? Alors, on va le Ramsès, exactement comme ça, si ce n'est qu'on va mettre aussi le signe. Attendez, je filme comme ça. Je le fais mal. Hein. Puis ici, au milieu. Ça signifie la vie. La vie. Ankh, ça se dit en égyptien. La vie. Pourquoi ? Parce que vous avez le père, la mère. Et l'enfant qui naît, c'est donc les trois, une espèce de triade, c'est ça, le pictogramme qui signifie la vie. Bon, alors fils d'eux, il est enfanté de la mer et du soleil. Voilà. Alors ça c'est le pictogramme. Maintenant, en Mésopotamie, on a une autre manière d'écrire. On en avait parlé la dernière fois. Est-ce que c'était utile d'y revenir? C'est un petit peu le système des charades, vous vous souvenez, hein? On en avait parlé. Est-ce que j'y reviens ou pas? Oui, non, non, oui. Comment? Peut-être. Bon. Le système des charades, bon, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est que là, on a un matériau d'écriture différent. En Égypte, on écrit soit sur de la pierre, avec un burin. Alors évidemment, c'est quand même moins vite, c'est quand même plus difficile et moins rapide que la machine à écrire moderne. Hein. Vous imaginez. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On a un autre matériau d'écriture en Égypte, c'est le papyrus. Qu'est-ce que c'est que le papyrus? C'est une plante qui pousse au bord du Nil en particulier, qu'on laisse sécher après l'avoir coupée. Et les feuilles de papyrus sont coupées en fines lamelles de 2 ou 3 mm de large, et qui peuvent atteindre la longueur de la feuille, quoi, grosso modo, de la feuille de papyrus. Et de ces lamelles de feuilles séchées, on fait un entrelac, à peu près comme ça. On fait un entrelac. Et ça nous donne une espèce de feuille de papier. Si vous voulez, c'est l'ancêtre de la feuille de papier. Mais cet entrelac extrêmement délicat de papyrus, c'est un énorme travail. Pour faire une seule feuille de papyrus, c'est un travail considérable. Il n'est donc pas question d'écrire des romans fleuves de 900 pages. Hein. Ça, c'est... En Égypte, à cette période-là, c'est hors de question, parce que ça coûte trop cher, le papyrus. Alors, en Mésopotamie, on a une technique beaucoup plus élaborée, beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteuse. Ce qui fait justement que la littérature de Mésopotamie va être beaucoup plus abondante que la littérature égyptienne, en tout cas celle qui nous est parvenue. Qu'est-ce que c'est le matériau d'écriture en Mésopotamie? C'est la tablette de terre. Le limon, c'est extrêmement répandu, en particulier en basse Mésopotamie, qui est une région marécageuse, tandis que le Nil charrie essentiellement, on est en plein désert, charrie du sable, donc il n'y a pas, de limon là-bas en Égypte. Par contre, en Mésopotamie, on a un limon qui est d'ailleurs extrêmement fertile, qui permet la culture et qui permet justement la richesse, l'implantation justement de cette civilisation mésopotamienne. Bon, c'est à partir du limon qu'on utilise comme matériau de construction. En Égypte, on utilise la pierre. Les pyramides sont en pierre taillée. Bon. En Mésopotamie, on utilise la brique. C'est-à-dire la brique cuite. Et très vite, on apprend à cuire la terre, d'où la poterie, et aussi justement la brique. Les villes mésopotamiennes sont en brique. Cette brique, avant de la cuire, elle est molle. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire avec un poinçon, c'est-à-dire un objet en bois, ou en os, ou n'importe quoi. Enfin, en général, c'est plutôt en bois quand même, c'est plus simple, hein, qui est taillé en biseau. Ça veut dire qu'il fait à peu près, si vous voulez, en coupe, ça fait ça. Voilà. Et on a taillé, si vous voulez, le bout de bois comme ça pour en faire ça. Bon, on peut en avoir de différentes grandeurs. Hein. Vous en avez les plus grandes, vous en avez les plus petits. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une tablette, molle, bien entendu. Et avec le poinçon, on va imprimer dans la glaise molle un certain nombre de coins, comme ça. D'où écriture cunéiforme, ça veut dire écriture en coin. Alors, vous allez avoir à peu près quelque chose comme ça. Bon, je fais ici en gros, hein. Voilà. Alors. Ensuite, il y en a qui repartent comme ça. Vous en avez des plus petits qui viennent là, hein, bon, etc. Et ainsi de suite, tout au long de la tablette. D'ailleurs, ça commence dans l'autre sens comme l'hébreu, en général. Enfin bon, je fais comme ça. Comme ceux qui ne connaissent pas le sumérien, ça ne les dérange pas trop. Mais bon, alors, si vous voulez, alors on a deux solutions. Par exemple, chez les écoliers qui apprennent à écrire, c'est comme une ardoise autrefois, hein. Quand on a terminé son exercice, on efface tout, on recommence. Donc, pas question de papyrus, ça peut aller très vite, hein, avec un poinçon, tandis que quand en Égypte, on taille dans la pierre avec un burin, vous voyez ce que ça représente. Hein, tandis qu'ici, on peut écrire un texte relativement long, très rapidement. Si on n'est pas content, on l'efface. Et si on trouve que c'est un chef-d'œuvre immortel, que toutes les générations à venir méritent de le connaître, on le cuit. Et quand il est cuit, il est fixé pour l'éternité. Tellement bien fixé que des milliers d'années après, les archéologues les redécouvrent et peuvent les déchiffrer. Bon. Alors, le système d'écriture de Mésopotamie, ce qu'on appelle alors le sumérien et l'akkadien, parce que finalement, la langue primitive de la Mésopotamie, c'est le sumérien. Les sumériens sont des gens qui sont venus des montagnes du nord de la Mésopotamie, c'est-à-dire des montagnes d'Iran, qui sont venus eux-mêmes, si vous voulez, de l'Ararat, si on reprend donc ce qui est écrit dans la Bible, l'arche de Noé qui était située au nord de cette région-là. Et donc, si vous voulez, descendant des montagnes de l'Ararat, et ensuite passant pour à la frontière de l'Iran, les populations sumériennes, les ancêtres des Sumériens, sont passées par les montagnes d'Iran et sont descendues dans la plaine que la ville appelle la plaine de Shinéa. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la Mésopotamie, l'Irak actuel, si vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez, les Sumériens seraient vraisemblablement des descendants de Yafet, quoi. Hein. Donc, parlaient une langue non sémite, qui avait des affinités avec l'acadien quand même, parce que donc, tout est issu d'une langue primitive. Et beaucoup plus tard, donc, environ de 2300 avant Jésus-Christ, est arrivée une autre population en Mésopotamie qui était une population sémite, qui descendait donc de Shem, un des deuxièmes fils de Noé, qui avait un autre type de langue, langue sémitique, langue trilitaire, avec langue agglutinative, qui est donc différente justement des langues indo-européennes, dont le sumérien était une branche. Nos langues européennes sont descendues du sumérien finalement. Et là, détail intéressant, si vous voulez, ces langues anciennes, l'acadien, le sumérien, pour ne parler que d'elles sans parler de l'égyptien, sont des langues infiniment plus complexes que nos langues. La grammaire sumérienne et la grammaire acadienne, eh bien, la grammaire française à côté, laissez-moi vous dire que c'est une joyeuse plaisanterie. Et voyez-vous ici la théorie de Darwin, de Coppens et autres consorts. Au début, les hommes parlaient par onomatopée. C'est bien ça. Poussaient des cris plus ou moins inarticulés. Pas du tout. Et Darwin, Coppens et consorts disent on part du plus simple pour aller au plus complexe. L'archéologie nous dit non, non, on part du plus complexe pour arriver au plus simple. Les langues plus anciennes, les langues plus récentes sont beaucoup plus simples que les langues plus anciennes. Plus on remonte dans le temps, plus on a un système grammatical et un système linguistique complexe. C'est comme ça. Hein ? Même chose pour l'écriture. Alors, l'écriture sumérienne, puis l'écriture acadienne, les Acadiens vont arriver, ce sont des Sémites, ils vont avoir une langue différente du sumérien, mais ils vont reprendre le système d'écriture des Sumériens pour écrire leur langue. C'est bien que, si vous voulez, a priori, on ne peut pas savoir si on a affaire à un texte sumérien ou si on a un texte acadien aussi longtemps qu'on ne l'a pas lu. C'est le même système d'écriture. Même chose pour l'assyrien. L'assyrien qui va être aussi une branche de l'acadien, puisque c'est aussi un peuple sémite, les Assyriens. Vous aurez la même chose pour les Amorites. Bon. Tous ces gens-là vont reprendre le même système d'écriture. Et alors, là, si vous voulez, au lieu d'avoir justement des pictogrammes, nous avons des signes qui sont des signes absolument abstraits, qui sont simplement les traces du poinçon sur l'argile, et qui, combinés de différentes manières, vont faire une syllabe. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ça, là, je... ça sera, là, c'est l'être, voilà, d'our. Ici, on fait ici un autre signe, je ne sais pas, moi, par exemple, comme ça, voilà, voilà, ce sera le signe. Ça, on va faire ici. Voilà. Ce sera la syllabe kin. L'ensemble veut dire do, charou, kin. Do, la ville, Charou, le prince, Kin, le fils. Hein? Donc, le fils dans le sens de propriétaire. Le roi, le propriétaire légitime de la ville. Vous voyez ? Simple, hein ? Vous avez compris ? Facile comme bonjour. Alors, pour pouvoir lire un texte comme ça, il faut connaître des milliers de signes. Et chose intéressante, jamais aucun de ces deux systèmes, ni le mésopotamien, ni l'égyptien, aboutira à l'écriture alphabétique. Personne n'aura l'idée, pas plus qu'on a eu l'idée du monothéisme, personne n'aura l'idée de décomposer le langage dans des signes dans, qui représentent chacun un des sons fondamentaux du langage. Il faut attendre les Hébreux pour ça. C'est les Hébreux qui inventent l'alphabet. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et là, donc, bon, c'est la même chose, si vous voulez, en Chine. Parce que les Chinois, enfin, les peuples asiatiques, sont partis du même endroit, finalement. Et jusqu'à aujourd'hui, les Chinois et les Japonais ont des milliers de signes qui ressemblent étrangement au cunéiforme. Seulement, si vous voulez, ils ne sont pas avec des poinçons, ils sont dessinés avec de l'encre au pinceau. Parce que justement, on écrit sur de la soie en Chine. On invente la soie, on invente le tissu, on écrit sur du tissu au départ. Puis ensuite, les Chinois inventent le papier. C'est eux qui sont les premiers à inventer le papier tel que nous le connaissons. Donc, si vous voulez, on dessine au pinceau des signes qui ressemblent au cunéiforme, finalement. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Bonne question.
Alors, il y a un moment dans l'histoire où tout ce qu'on va faire, qu'ils vont pouvoir interpréter un peu ces écritures.
Voilà. On a effectivement le début de la recherche archéologique, l'épigraphie. Ça, c'est une discipline de l'archéologie qu'on appelle épigraphie, c'est-à-dire l'étude des langues anciennes et des inscriptions anciennes. L'épigraphie a mis longtemps à démarrer. On avait retrouvé les textes, évidemment, depuis longtemps, on connaissait les hiéroglyphes. Du moins, on les connaissait, c'est-à-dire on en avait vu, mais on ne savait pas les lire, bien sûr. Au début, on trouvait en Mésopotamie, avec Paul-Émile Botta ou tous les consuls qui étaient là-bas, découvraient justement ces pierres qui étaient utilisées par les... Enfin, ces briques qui étaient utilisées par les bédouins locaux pour construire leur maison. Construisaient des maisons entières qui ont été construites avec les restes de bibliothèques. Ben oui, ils utilisaient ça comme briques. Hein. Et finalement, ce sont les consuls qui ont dit, tiens, ça doit être une écriture ancienne, mais comment la lire ? Et vous savez que le premier qui a été capable de lire des hiéroglyphes, c'était Champollion. Champollion, qui était un savant que Napoléon Bonaparte avait emmené avec lui dans sa fameuse expédition d'Égypte. Vous savez comment Napoléon a ramené une des obélisques qui se trouve à la place de la Concorde aujourd'hui, à Paris. Et Champollion, pendant qu'il était en Égypte avec Bonaparte, a eu la chance de tomber sur la fameuse pierre de la Rosette. Je ne sais pas, on l'a dans la... Non, c'est les Carésiens qui ont une reproduction. La pierre de la Rosette était en trois langues. C'était une pierre qui datait de l'époque de la reine Cléopâtre, donc de l'époque classique, disons. Elle était en égyptien, ancien, donc en hiéroglyphe, en grec, et puis la troisième langue, c'était quoi déjà ?
Le démotique.
Donc c'est ça, la langue égyptienne de l'Égypte récente, quoi, de la fin de l'Empire égyptien. Bon, et soudain, dans Champollion a découvert sur la plaie de la Rosette ce qu'on appelle un cartouche. Un cartouche, c'est dans un texte égyptien. Alors l'égyptien, pour rendre les choses faciles, parce que l'égyptien c'est une langue très facile, l'hiéroglyphe, peut être lu dans tous les sens. Peut être lu comme ça, peut être lu comme ça, ou peut être lu comme ça, ou peut être lu comme ça. Ça, c'est le scribe qui choisit. Alors ça aide tout de suite. Vous comprenez ? Alors, vous avez un texte touffu comme ça, et on savait quand même, assez depuis toujours, que quand apparaissait dans un texte égyptien le nom d'un roi, il y avait ce qu'on appelait un cartouche. Par exemple ici, Ramsès, je réécris Ramsès comme j'ai fait tout à l'heure. Hein, voilà. Voilà, ça c'est Ramsès en égyptien. Bon. Quand le nom du roi apparaît, il est toujours entouré comme ça, d'une espèce de quadrilatère, si vous voulez, avec des angles ronds. Ce qu'on appelle un cartouche, le cartouche du roi. Et dans le texte grec, apparaissait le nom de Cléopâtre. Et Champollion a pensé que le texte grec était la traduction du texte égyptien. Et il a cherché dans le texte égyptien le nom de Cléopâtre. Et il a trouvé un cartouche. Il a dit, voilà le nom de Cléopâtre. Et il a réussi à déchiffrer le nom de Cléopâtre en égyptien. Et à partir de ça, c'était la clé. À partir de ça, il peut reconstruire tous les autres. Vous comprenez? Parce qu'on a la traduction. Bon, ici, le nom qui est avant Cléopâtre, en grec, c'est, je ne sais pas moi, la reine. Mettons, la reine. Donc il dit, ce qui est avant ici, ça veut dire la reine. Etc. Et ainsi de suite. Mot à mot, il a pu reconstituer le texte. Et il a été capable de publier le premier dictionnaire d'Égyptien ancien. Bon, le système a été perfectionné par la suite, il continue à l'être d'ailleurs, parce que, bon, c'est jamais fini. Et alors, pour les autres langues anciennes, c'est toujours le même principe. Il faut trouver une traduction, il faut trouver un texte bilingue pour pouvoir le traduire. À partir du moment où on tombe sur un texte bilingue, ça va, on est sauvé. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'écritures anciennes qui ne sont toujours pas déchiffrées. Le hittite, par exemple. Le crétois ancien. Il y a le fameux disque de Phaistos qui est illisible, qui est vraisemblablement un texte qui est en relation avec les Philistins. Mais on est incapable de le lire parce qu'on a, pour le moment, on n'a trouvé aucun texte bilingue. Alors on peut évidemment aussi, si on a des langues voisines, par exemple, quand on a déchiffré, par exemple, je ne sais pas, moi, le sumérien ou l'acadien. Bon, on peut déchiffrer l'assyrien parce que c'est une langue qui est proche. Bon, il y a des choses qui changent, mais enfin, on finit par comprendre. Hein. Comme si, par exemple, vous parlez français, vous tombez sur un texte espagnol, avec le temps, vous finirez par lire l'espagnol, couramment, hein, simplement en étudiant des textes. Parce que, bon, on fait des recoupements, etc. Quoi. On déduit des règles de grammaire, etc. et tout ça. Donc, quand on a des langues voisines, on arrive à les déchiffrer. Mais quand, là, c'est, par exemple, le hittite ou le crétois, c'est des langues qui n'ont aucun équivalent. Alors, ce qui est intéressant actuellement pour le crétois, par exemple, c'est qu'on se demande si la clé de la compréhension du crétois ne serait pas le basque. Le basque pourrait être une survivance, justement, du crétois. Et le hongrois. Le hongrois, c'est une langue extrêmement étonnante, aussi étrange, qui n'a aucun équivalent nulle part, mais qui a des points communs avec le basque. Bon, alors on en est là pour le déchiffrage du crétois pour le moment. Alors si on arrive à avoir des langues... Alors ce qu'a aidé Champollion aussi, c'était le copte. Car le copte, c'est un dérivé justement du démotique et de l'ancienne langue des Égyptiens. Et alors, en comparant ce qu'il a découvert sur la pierre de la Rosette avec le copte, il a pu reconstituer aussi la langue égyptienne ancienne. Alors quand on a des langues qui sont dérivées, des familles de langues, bon par exemple l'acadien aussi, même les langues sémitiques, l'hébreu, l'arabe, etc., ont aidé à la compréhension de l'acadien, parce qu'il y a la même structure de la langue, des mots qui ressemblent, par exemple sar, on l'a vu tout à l'heure, on a le même mot en hébreu, sar, ça veut dire le roi, le chef, hein, sar, le roi, char en acadien, charou en acadien. Uruk, n'est-ce pas, pour le feu, etc. Bon, on retrouve ça en hébreu aussi. Donc il y a des... ça aide, quoi, ça aide. Il faut comparer les différentes langues. Il faut donc une grande connaissance des langues anciennes pour pouvoir être un épigraphe extrêmement émérite, quoi. Ça, c'est toute une œuvre d'une vie. Quelqu'un qui se consacre à ça, c'est un travail de bénédictin. Autre question ? Non, l'écriture hiéroglyphique.
Comment ?
L'écriture hiéroglyphique.
Hiéroglyphique, donc par image, quoi.
Par image, des pictogrammes, oui.
Pictogrammes. Donc cunéiforme, c'était en Mésopotamie, avec les Acadiens et les Sumériens. Mais les Acadiens, donc, un peuple sémite, mais qui venait d'où ?
Qui venait aussi des montagnes du nord d'Iran.
D'accord.
Qui avait certainement séjourné plus longtemps que les Sumériens là-bas. et qui avait peut-être migré. Parce que finalement, pour la Bible, les Égyptiens sont aussi des Sémites. Et des Hamictes. Il y a les deux. Bon.
Il y avait le papyrus,
j'ai vu
longtemps après
Ah, ben le papyrus, dès l'Ancien Empire, on trouve le papyrus. Donc ça s'est fait assez vite. Encore une fois, il ne faut pas imaginer les anciens comme des espèces de rustres à la Coppens, dans son fameux film. C'était des gens qui déjà avaient des choses extrêmement. Regardez les pyramides. Les pyramides, on n'a plus jamais, les Égyptiens n'ont plus jamais construit de pyramides. C'était des chefs-d'œuvre, les pyramides. Et ça, c'est le début de l'histoire égyptienne.
Donc en fait, cette période-là, c'est un peu l'âge du fer.
Ah non, c'est l'âge du bronze. Le bronze, c'est bien avant ça.
L'argile en soi.
Comment ?
Parce que ces tablettes étaient frappées de petits de bronze.
Non. C'était plutôt. Oui, cuites.
Ah d'accord.
Elles étaient cuites.
Et donc après, pour arriver à croquer, ouais.
On écrivait d'abord quand l'argile était molle,
ouais, bien sûr.
Et ensuite on cuisait la brique et le texte était fixé.
Quand la c'est ce qu'on appelle l'argile. Non.
C'était de l'argile, oui, c'était de l'argile.
Mais l'argile.
Tu peux faire la même chose, toi. Tu prends de l'argile, tu fais une tablette et tu peux écrire dessus. Tu peux écrire dessus, tu écris en français, tu le cuis, puis c'est fixé pour l'éternité. Les archéologues qui viendront 10 000 ans après, qui font des fouilles à Sainte-Anne dorée, trouveront la bibliothèque de David de Borne, ils diront que c'était un génie de son temps, quoi.
Non, mais je me faisais un mauvais stéréotype dans ma tête. Je me disais, la tablette d'argile, toujours à l'état dur, et qu'ils avaient des outils de fer au bronze en train de. Mais non, en fait, c'était des outils en bois.
Alors, c'était les Égyptiens. Les Égyptiens avaient effectivement des instruments de bronze.
Et donc.
Des burins de bronze.
Des burins, quoi.
De bronze. Mais de bronze, pas de fer, hein. De bronze.
Ils avaient des temples pour rendre le bronze quasiment aussi résistant
au fer. Ah oui.
Ouais, donc voilà, c'est ça. Donc oui, je pense que je ne savais pas si c'était les Acadiens ou les Sumériens, mais les Égyptiens, même à la même époque, utilisaient des outils de bronze sur les tablettes d'argile.
Pas sur les tablettes d'argile, sur la pierre. Directement sur la pierre.
Pas
sur l'argile dure, non. Ils n'avaient pas d'argile en Égypte.
Non, parce qu'il existe de l'argile, si vous voulez.
Il n'y a pas d'argile en Égypte.
D'accord.
Il n'y a pas d'argile. Parce qu'il n'y a pas de. Si tu veux, il n'y a que du sable.
D'accord.
Il n'y a que du sable. Donc il n'y a pas d'argile. Il n'y a que de la pierre.
D'accord.
C'est pourquoi il n'y a pas du tout. C'est un style de construction tout à fait différent que tu trouves
pourtant,
en Égypte.
Ils font des briques aussi.
Pardon ?
Ils fabriquent des briques.
Ils fabriquent des briques, oui, mais alors. Oui, si, alors oui, c'est vrai, oui. Oui. Enfin, au début.
Les Égyptiens écrivaient aussi sur des tablettes d'argile.
Ils écrivaient aussi sur des tablettes d'argile. Oui, oui. Oui. Mais moins que les Acadiens, quoi.
Je crois que c'est un travail beaucoup plus long, quoi, que de la culture en soi, de frapper avec une
pierre. La pierre. Les tables de pierre.
Mais ça veut dire aussi qu'à l'époque, ils utilisaient aussi la trompe.
La quoi ?
La trompe pour tremper des outils de bronze.
Ah oui,
pour pas que le bronze est très cassé.
Ah ben ça, tu verras quand tu seras, si tu vas en Israël, tu vas à Timna, tu verras que dès l'époque chalcolithique, il y avait des hauts fourneaux.
Ah ouais, c'est
ça. Et il t'explique comment il faisait le bronze à cette époque-là. Et les coulées, etc. Comment il portait, par des techniques tout à fait spéciales, à une température incroyablement élevée, le mélange qu'il faisait donc de minerais de cuivre. Avec de l'étain, avec du charbon de bois, avec des choses. Enfin, c'était incroyable. Ils avaient des techniques ultra, ultra évoluées, puis pour ventiler tout ça, etc. C'était. C'est inouï, quoi, de voir. C'est pour ça qu'on est loin de Coppens, quoi. Bien, on va rester là.